Donc, je passe la parole à Alain Diriban.
Donc, vous comprenez que je suis le chercheur de services, économiste, mais aussi sociologue, et que donc, du coup, il est probable que la vision que j'ai de l'industrie et de son fonctionnement en France ne sera pas tout à fait la même que celle qui sera présentée par les autres interlocuteurs autour de cette table. Je suis tout à fait intéressé par le fait que, Michel, parlant de l'industrie, tu as parlé de politique industrielle. Alors qu'il me paraît évident que les problèmes de l'industrie française dépassent très largement les questions de politique industrielle. Tu as évoqué aussi les questions de mondialisation et de compétitivité mondiale. Il me semble que le sérieux du débat serait de discuter d'abord des problèmes de compétitivité avec notre principal partenaire qui est l'Allemagne, pour essayer de comprendre pourquoi l'Allemagne aujourd'hui a un appareil industriel qui est à peu près le double que le nôtre, et que par ailleurs, si on regarde les échanges internationaux, l'Allemagne fait avec la France ses plus grands excédents de balance commerciale, puisque nous sommes à la fois son premier partenaire et son premier fournisseur de ressources extérieures. Pour mémoire, le déficit du commerce de l'Allemagne avec la Chine est de 19 milliards de dollars, et l'excédent commercial de l'Allemagne avec la France est de un peu plus de 27 milliards de dollars. Donc c'est là qu'il faut quand même regarder les choses de près. Ce qui m'est fait dire que le problème est certes, comme on le dit souvent dans les journaux et encore aujourd'hui, un problème de différence de coût salarial, encore que le coût salarial français aujourd'hui n'est pas plus élevé que le coût salarial allemand. La dérive, oui, est réelle, mais le coût total est à peu près le même. Et dire que c'est la faute des 35 heures, du fait que les Français ne travaillent pas et ainsi de suite, me paraît un peu court. Alors effectivement, ma grande interrogation, c'est pourquoi, quand on regarde tous les travaux qui sont menés aussi bien dans le commissariat du beau plan du temps où il existait, dans la grande époque des années 70, ou les travaux menés pour le compte du ministère de l'Industrie, en utilisant les sources diverses dans les statistiques, pourquoi, en 40 ans, on retrouve toujours les mêmes leitmotifs, on dénonce les mêmes faiblesses structurelles, on propose toujours des actions diverses et variées, bien sûr des actions publiques, pour rendre l'appareil industriel français plus compétitif à l'international, et pourquoi, de fait, sur le fond, on n'avance pas. Et mon sentiment, c'est qu'on a une construction sociétale française qui n'est pas une construction favorable au développement de l'industrie par opposition à la logique allemande. Je rappelle que le grand moment de l'économie industrielle française, c'est le Second Empire avec les Saint-Simoniens, et que, bien sûr, on a eu une reconstruction avec le plan Marshall, les plans de productivité liés à la reconstruction de la guerre, et puis on a eu la période avec le général de Gaulle et Pompidou, le premier visant à développer le rang de la France dans le concert des nations, et le second étant plus préoccupé par le fait qu'avec la création du marché commun, il voulait que la France soit à la hauteur de l'Allemagne. Et les outils qui ont été utilisés sont sensiblement les mêmes dans l'après-guerre, c'est fabriquer des champions nationaux en s'appuyant sur nos deux forces, qui sont bien entendu les ingénieurs des grandes écoles d'un côté et de l'autre les cadres dirigeants qui sont également sortis des écoles. Et donc c'est ça qui fait la force, une capacité à être présent dans des secteurs de la technologie, là où il y a des grands programmes et là où les discussions se font massivement avec des grands contrats et des grands contrats d'État. Alors, si on a ça, c'est que donc cette construction sociétale, elle dépasse très largement les problèmes industriels et touche à la fois des questions d'éducation, des questions de relations professionnelles, des questions de politique publique, bien entendu, mais des questions de comportement de la finance, des banques, et ainsi de suite. Et si on veut comprendre quelque chose, et si on veut agir, il faut agir dans une logique systémique qui combine les différentes dimensions que j'ai évoquées, sachant qu'au cœur de l'ensemble, il y a l'architecture industrielle des entreprises françaises. Toujours, si on compare avec l'Allemagne, vous savez qu'il manque le cœur du dispositif, constitué par ces fameuses entreprises dites de taille moyenne, c'est-à-dire qui ont entre 250 et 1000 salariés, et qui, pour laquelle la France représente 22% des salariés industriels, alors que l'Allemagne en a 33%. Et donc, en plus, ce sont massivement des entreprises industrielles, patrimoniales. Alors, si, sachant que, par ailleurs, dans tous les secteurs d'activité, quelles que soient des tailles d'entreprise, vous trouvez des entreprises performantes en France dans toutes les parties du territoire. Donc le problème n'est pas l'absence d'entreprises performantes, le problème est de savoir pourquoi les normes de production, les normes sociales, les normes économiques et les normes industrielles françaises n'arrivent pas à se mettre aux normes de la compétitivité internationale au fur et à mesure qu'elles évoluent. Alors, j'ai passé au crible à très grande vitesse, puisque le temps est compté, on pourra en revenir dans le débat, différentes dimensions de l'analyse. La première, c'est effectivement le problème de l'efficacité organisationnelle qui existe dans les entreprises, dont on sait que ce problème d'efficacité met en relation des questions d'éducation et des questions de relations professionnelles. Sachant que les entreprises françaises, quel que soit le discours, gardent une préférence pour le taylorisme et le néo-taylorisme, gardent une préférence pour l'organisation bureaucratique, et elles gardent une préférence aussi pour des hiérarchies, des vraies, avec des distinctions entre le haut et le bas, et avec des distances entre ceux-ci, qui sont des distinctions à la fois des distances de statut, mais aussi des distances de rémunération, et qui donc qui fait que l'entreprise française est peu homogène. Alors, sur les aspects éducatifs, c'est un peu une justice distributive. La formation professionnelle en France n'est pas à la hauteur des besoins qu'il devrait y avoir. Et je rappelle qu'on est incapable, on a beaucoup de mal à former des compétences hybrides. Par exemple, moi, je travaillais sur les électromécaniciens. C'était pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à avoir des électromécaniciens dans les entreprises françaises? Il fallait les prendre à la marine, alors que ça posait aucun problème en Allemagne. Pourquoi on n'arrivait pas à faire des mécaniciens et des électroniciens, ce qui entre autres a tué la machine-outil française au moment du passage numérique, et ainsi de suite. Et puis je rappelle qu'on met quand même régulièrement sur le marché du travail 10% de chaque cohorte avec des jeunes qui ont une formation nulle à la sortie de l'appareil éducatif. Ça, c'est pour le bas. Et pour le haut, eh bien, on reste avec ce système singulier qui sent que les cadres dirigeants des entreprises ne sont pas sortis des universités. On n'a pas, sauf de façon anecdotique, des universités technologiques, et on n'a pas donc au sommet des entreprises l'équivalent de ce que l'on retrouve dans tous les autres pays, ce qui, de mon point de vue, pose des problèmes. Et ceci pose d'autant plus de problèmes qu'avec la logique de distance, avant que les responsables des grands groupes industriels aillent connaître les soutes de ce qui se passe au fin fond de leurs usines, et avant que, compte tenu de leur formation, ils s'intéressent à ce que peut constituer la préférence nationale, puisque bien entendu ce sont des beaux esprits formés à la française pour qui l'espace monde est l'universalité et leur référence, pourquoi ils vont s'intéresser à faire en sorte que leur groupe reste présent sur le territoire national, sauf quand le territoire offre quelques rentes de bonne aloi. Pour les relations professionnelles, en fait, on a la même logique. C'est qu'on fonctionne dans une logique d'opposition, sans coopération gestionnaire, avec des syndicats, comme vous le savez tous, très peu présents dans les entreprises, sauf dans celles qui sont nationalisées, présents dans la fonction publique. Et donc on comprend pourquoi leur force et le jeu qui se fait dans les relations professionnelles se fait principalement ailleurs, c'est-à-dire dans la gestion de ce qui est la protection sociale, qui fait effectivement de nouveau des lieux de coopération dans lesquels on fabrique de la rente en commun. Fameuse rente que l'on retrouve en charge sur les entreprises qui se plaignent par ailleurs de tout ce que sont les coûts pour elles de la protection sociale de différentes natures. Donc, ceci explique pourquoi on a effectivement des vrais problèmes d'efficacité industrielle, mais du point de vue de l'organisation. Mais ceci renvoie aussi à la question qui est pourquoi est-ce que la France, toujours depuis à peu près 40 ans, a ce qu'on appelle le taux de chômage structurel de référence, qui est de 9% stable, et qui fait que dès qu'on descend en dessous de 9%, apparaissent à différents endroits des pénuries de main-d'œuvre, tout au moins telles que le disent les responsables d'entreprise. Et donc, le fameux RERU en question, alors que Dieu sait qu'on a mené des politiques destinées à favoriser l'insertion des jeunes, maintenant des politiques destinées à favoriser le maintien des vieux au travail, des politiques destinées à faire que les actifs qui sont sortis de l'entreprise ne restent pas en chômage de longue durée. De fait, le système, globalement, reste stable à ce niveau. Si on veut continuer, et là encore, j'ai fait la logique française en contrepoint de la logique allemande, parce que j'ai eu le plaisir de travailler sur des groupes franco-allemands pendant un certain temps, et à voir ce que disaient les Allemands sur les Français et les Français sur les Allemands. Donc la faiblesse de l'efficacité gestionnaire, on voit. Le manque de rigueur dans les analyses de coûts. Quelle est la place de l'analyse de la valeur dans l'analyse des produits et des process ? Le faible rigueur dans le contrôle de gestion, la faible compétence de la main-d'œuvre, en particulier au regard sophistiqué des matériels et des équipements. C'est toujours fabuleux de voir en France comment vous avez des équipements ultra sophistiqués qu'on met en œuvre avec des gens qui ne sont pas capables de les maîtriser, ce qui fait que le taux de fonctionnement des équipements sont souvent très faibles. La volonté en cas de dysfonctionnement, toujours en France, de savoir qui est responsable, aussi bien du point de vue individuel que collectif, plutôt de savoir comment résoudre le problème. Et enfin, on a des organisations industrielles qui privilégient les performances industrielles au détriment de l'efficacité collective. Et là encore, ça fait partie des choses qui nous surprennent beaucoup. C'est que quand on intègre petit à petit, depuis le poste de travail jusqu'à l'entreprise globale, l'efficacité, eh bien on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on intègre, on perd de l'efficacité. La même chose en matière d'efficacité technologique. Je ne reviendrai pas sur un sujet qui m'est cher, qui est l'organisation du système de recherche et développement, avec d'une part la quasi-absence des universités technologiques, une recherche qui est dominante du point de vue public. Je rappelle qu'en France, la recherche privée a un pourcentage relativement faible et que dans la recherche publique, on comptabilise aussi la recherche liée à la défense. Et que donc, du coup, on voit bien que si on rajoute une concentration de la recherche-développement privée dans un certain nombre de secteurs très particuliers et dans un certain nombre d'entreprises particulières qui sont les très grandes, à ce moment-là, on voit que, d'une manière générale, la recherche-développement française est particulièrement faible. Si on rajoute la relation recherche-industrie, où sont en France les équivalents des grands centres de transfert allemands qui sont les Fraunhofer ? Il n'y en a pas. Où sont, pour les petites et moyennes entreprises, l'équivalent de ce que sont les centres techniques professionnels qui existent effectivement sur le papier, qui existent, qui font des choses, mais qui n'ont absolument pas la même puissance que les centres techniques professionnels allemands, très ancrés dans les milieux de leurs entreprises et très centrés sur leur territoire. On a aussi l'efficacité financière, on a le problème de l'autofinancement, dans la mesure où les entreprises françaises sont à un niveau de profitabilité relativement limité sur le territoire national, alors les excédents bruts d'exploitation sont plus faibles que chez un certain nombre de leurs concurrents, ce qui limite leur autofinancement. Il y a le problème des banques françaises qui s'éloignent de plus en plus des territoires et qui chassent aussi à l'international, qui par ailleurs limitent leur prise de risque industrielle, qui fait que les petites entreprises que j'ai évoquées ont du mal à trouver des financements, mais surtout ont du mal à trouver des financements quand elles sont en situation difficile, compte tenu des garanties qui leur sont demandées, et qui fait qu'elles sont souvent laissées en cours de route, alors que d'une certaine manière, elles sont saines sur les fondamentaux. La faiblesse de la nature patrimoniale des entreprises, j'y reviendrai pas, en particulier des grosses et des moyennes, et puis une spécialisation sur les marchés à faible valeur ajoutée, avec des prix, une présence avec des prix directeurs qui sont limités. J'insisterai pas sur la faiblesse de l'efficacité commerciale. Les Français restent tout à fait fâchés avec leur relation aux clients. Ce que l'entreprise sait mieux que ses clients, ce qui est important pour lui. Et je finirai par les politiques publiques, pour là encore faire le lien avec probablement un exposé. C'est la faiblesse de la cohérence des politiques publiques combinant filières et territoires, liée au fait qu'il n'y a pratiquement plus de pilotes dans l'avion en matière de politique industrielle. On pourra débattre pourquoi. La complexité des dispositifs d'action qui multiplient les décideurs publics, chacun jaloux de leurs prérogatives. Et là encore, les entreprises ont pas mal de choses à raconter. La difficulté de négocier efficacement avec l'ensemble des acteurs concernés, y compris les citoyens. C'est l'absence de consensus et le déficit de la démocratie participative. Et enfin, une applicabilité limitée à des politiques qui sont fortement normatives, qui sont instables, extrêmement compliquées, qui changent tout le temps et qui fait qu'il est difficile, voire impossible aux entreprises, à partir de ces politiques publiques, de mener des business plans à peu près convenables. Et de ce point de vue-là, la merveille des merveilles est quand même l'application des accords de Grenelle, avec tout ce qui touche d'un côté pour les particuliers, les aides pour réduire les consommations d'énergie des logements. Les banques ont renoncé tellement c'est difficile de faire les prêts. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est la filière énergie renouvelable avec les technologies de type photovoltaïque, qui sont aussi des merveilles d'inconséquence. Donc voilà une justice qui se veut quand même distributive et qui fait que, il y a quand même, merveille, des entreprises qui, tout le temps, en France, sont capables de produire malgré ça.